RMC Grand Plateau, Christophe Cessieux.
Salut à tous, le cannibale n'est plus tout seul là-haut au panthéon des vainqueurs d'étapes du Tour de France. Et non, il devra désormais partager son trône avec un pitbull britannique nommé Mark Cavendish, qui en remportant la 13e étape du Tour aujourd'hui à Carcassonne, rejoint dans la légende le cannibale et ses 34 succès dans le Tour. Pour autant difficile de comparer les palmarès des deux champions, Pierre-Yves Leroux s'y risquera tout de même dans un instant. Cavendish, le magnifique, était pourtant tout prêt à mettre fin à sa carrière la saison dernière. Et il s'en est fallu d'un rien, d'un petit coup de pouce du patron de la Deceuninck, Patrick Lefebvre, qui nous racontera la genèse du retour du CAV, le maillot vert du Tour, qui va désormais tenter de passer les Pyrénées dans les délais, histoire d'avoir encore quelques occasions de décrocher seul le record. Ces Pyrénées où la victoire dans le Tour se jouera, sans les Français, prenons en général, faut-il tout de même compter sur nos coureurs pour réaliser des coups et gagner des étapes? Ce sera le débat de notre partie de manivelle. Enfin, la rétro-poussette du jour sera consacrée à un autre sale gosse du peloton, un certain Roger Hassenforder, vainqueur lui aussi de 4 étapes durant un même tour. C'était en 1956, l'équipe de Grand Plateau au garde à vous pour fêter le CAV, avec notamment un garçon qui lui aussi a brillé sur les sprints du Tour de France il y a de cela quelques années. J'ai nommé le druide Cyril Guimard. Salut Cyril.
Oui, salut, bonsoir à tous.
Jérôme Coppel a brillé, mais peut-être pas aujourd'hui, un peu en dedans. Les étapes de transition, les étapes en bois, c'est pas pour lui. Ça va Jérôme?
Salut Christophe, salut à tous. Ça va, ouais. Difficile journée, mais je serai mieux demain.
Heureusement, nous avons notre sprinter à nous, Pierre-Yves Leroux. Bien emmené, il faut dire, par un train d'enfer.
Moi je brille, surtout du crâne. Mais effectivement, j'étais bien emmené encore aujourd'hui.
Il s'appelle donc Mark Cavendish et il a rejoint dans la légende aujourd'hui un certain Eddy Merckx. C'est pas rien tout de même de rejoindre le cannibale Mark Cavendish qui s'impose pour la 4e fois depuis le départ de ce Tour de France. Grosse chute là dans une descente ici Pierre-Yves, il y a beaucoup de monde au tapis.
Une vingtaine de coureurs qui sont partis au tas, dont Higuita notamment, alors que ça s'accélérait, c'était plus nerveux. C'est sur la droite de la route que c'est arrivé, deux coureurs, dont un coureur de l'équipe Deceuninck Quick-Step qui a pris d'ailleurs, semble-t-il, un petit poteau qui se trouvait au bord de la route. Certains sont descendus dans le fossé.
Ah ouais.
Il y a actuellement une dizaine de coureurs qui essayent de remonter avec leur vélo et des coureurs qui sont vraiment sérieusement touchés. Tim De Clercq, c'est lui, le coureur de l'équipe Deceuninck, qui a tapé dans ce poteau sur le bord de la route.
Pogacar également qui est aidé là de quelqu'un de l'organisation du Tour.
Ouais, il y a de la casse.
Il remonte, Simon Yates, au sol. Il y a beaucoup de monde et
décidément c'est le Tour
vite,
de France.
Ça allait vite en plus à cet endroit de la course.
On nous annonce également l'abandon de Simon Yates, l'anglais de l'équipe Bike Exchange, un gros nom qui quitterait la route du Tour toujours suite à cette chute.
Mark Cavendish a un souci sur le bord de la route à 36 km de l'arrivée, alors que Quentin Pacher est en tête avec 41 secondes d'avance, et bien Mark Cavendish est obligé de changer de vélo.
Ça roule très très vite, on était même à plus de 70 km/h tout à l'heure dans une longue ligne droite en faux plat légèrement descendant pour la tête de peloton.
Mark Cavendish qui va se lancer à la lutte avec Philipsen. Mark Cavendish pour 34 victoires, c'est lui le cannibale. Oui, Eddy Merckx a été rattrapé. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes palmarès, mais désormais, il y a deux hommes à avoir gagné 34 étapes du Tour de France, Mark Cavendish et Eddy Merckx.
RMC, Grand Plateau.
Alors évidemment, c'est difficile de comparer les palmarès de deux immenses champions. Difficile d'égaler Eddy Merckx, même si en termes de victoire d'étape, aujourd'hui Cavendish est au même nombre. On va quand même s'y risquer, histoire de comparer quand même, même l'incomparable, mon cher Pierre.
Ouais, c'est vrai que face au cannibale, Mark Cavendish fait quand même office d'appétit de moineau. Eddy Merckx l'a dit il y a quelques jours, il égale peut-être mon record, mais il ne gagnera jamais 5 tours ou portera le maillot jaune 96 jours. Merckx, il a gagné partout, sur tous les terrains, contrairement aux Britanniques. 5 Tours de France, 5 Giro, une Vuelta, 3 championnats du monde et tous les monuments ou les grandes classiques. 7 Milan San Remo, 2 Tours des Flandres, 7 Paris-Roubaix, 5 Liège-Bastogne-Liège et 2 Tours de Lombardie. Le CAV peut compter un Milan San Remo en 2009 et un championnat du monde en 2001, c'est bien maigre. Et Cavendish en convenait il y a quelques minutes, je ne pense pas qu'on puisse me comparer à Merckx, il restera le plus grand de tous les temps. Mais faisons un rêve. Postons-nous quelques instants sur la Via Roma à l'arrivée d'un Milan San Remo. Qui mêlerait les Deceuninck au Molteni? Qui serait le premier à franchir la ligne, le CAV ou le cannibale?
Effectivement, c'est toujours difficile de comparer les époques, mais on aurait bien aimé voir dans le peloton un Eddy Merckx, un Bernard Hinault, un Cavendish, un Cipollini, mélanger tout ça et voir ce que ça donnerait. Ça serait sans doute fantastique, malheureusement c'est impossible. Ce sprinter phénoménal en tout cas laisse Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, véritablement admiratif.
34 victoires d'étape, à 13 ans d'intervalle, depuis Bartali, on n'a pas vu un champion gagner des étapes sur le Tour de France à 13 ans d'intervalle. Bartali, c'était aussi à cause de la guerre. Là, heureusement, il n'y a pas eu de guerre. C'est un sprinter phénoménal qui a tout connu, des très hauts et des très bas, qui avait sombré dans une dépression. Cavendish, quand il commence à gagner, il gagne. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas forcément les premiers sprints, mais quand il se met à gagner, il les gagne tous. Et il les gagne encore aujourd'hui. Donc oui, ça n'est évidemment pas le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France. C'est Eddy Merckx. Mais lui, c'est sans aucun doute le plus grand sprinteur de l'histoire du Tour, le plus grand sprinteur de l'histoire du cyclisme. C'est aussi un coureur à émotions. Il transmet des émotions. Ses interviews, bon, c'est un bon client pour vous, hein, c'est une évidence. On regarde ses sprints, on regarde aussi ses interviews. J'ai vu l'interview sans l'entendre. Le langage corporel est absolument phénoménal. Ça dit tout. Donc voilà, c'est un sacré bonhomme, c'est un personnage du Tour, et c'est encore une fois le plus grand sprinteur de l'histoire. Il a gagné 4 fois à Paris sur les Champs-Élysées. Je pense que ce simple objectif-là va faire qu'évidemment, il va se battre jusqu'au bout pour ne pas être éliminé dans les Pyrénées, ce qu'il a fait à Tignes d'ailleurs il y a quelques jours.
Voilà, Christian Prudhomme qui espère comme nous tous d'ailleurs qu'il réussira à franchir les Pyrénées, on en parlera dans quelques instants. Alors, ce n'est pas le meilleur coureur de l'histoire, on va pas se raconter des histoires, mais c'est probablement le plus grand sprinter, nous disait Christian Prudhomme. Là aussi, c'est difficile de comparer avec les autres grands sprinteurs de l'époque, de l'histoire plus exactement. Quel est celui ou ceux qui vous ont fait rêver dans les sprints ? Cyril, toi, tu as été un grand sprinteur, peut-être pas le plus grand sprinteur français, mais t'es pas mal quand même. Quel est le sprinteur, quel est le modèle et quel est celui dont tu te rappelles le plus finalement ?
Alors, celui dont je me rappelle le plus, parce qu'il a nourri ma prime jeunesse avant que je ne fasse du vélo, c'était André Darrigade, qui gagnait les maillots verts du Tour de France, qui a gagné 22 étapes également dans le Tour de France, qui était équipier, c'était les équipes nationales, c'est vrai, mais qui était aussi l'équipier et l'ami de Jacques Anquetil. Ils étaient trois, d'ailleurs, avec Stablinski, Anquetil, Darrigade. Et ensuite, bon, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup admiré aussi, c'est Rick Van Looy.
Rick Van Looy, dont l'équipe a fait un portrait, très intéressante ce matin. Voilà, donc là, c'était l'époque, les années 50, début des années 60 pour Cyril. Jérôme, toi, tu n'étais pas un sprinteur, mais tu en as côtoyé, toi aussi, des grands dans le peloton, d'autres qui t'ont peut-être fait rêver, même si tu n'as jamais été une grosse cuisse du peloton.
Oula, non, loin de là. En tant que coureur, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Mark Cavendish. Hein. J'ai couru quasiment toute ma carrière avec lui. Il a gagné sa première étape au Tour en 2008. Moi, j'ai fait mon premier Tour en 2009. Donc j'ai vraiment fait tous mes Tours de France avec Mark Cavendish. Après, l'autre sprinter qui m'a le plus marqué, moi, dans mon enfance, c'est Mario Cipollini. Parce que c'était un showman, il gagnait plein de courses. Et puis j'ai une image de lui, une journée de repos au Grand Bornand. J'étais tout gamin, il logeait dans un hôtel d'un ami de mon père. Et on a été voir, il est sorti sur une calèche habillé en Jules César, tiré par des chevaux. Et je me disais, ouais, ce mec-là, c'est un coureur du
Tour. C'est pour ça que tu as voulu devenir coureur cycliste.
Alors, ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vraiment l'autre sprinter qui m'a vraiment marqué, Mario Cipollini, même si, à l'inverse de Cavendish, il a terminé aucun Tour de France.
Oui, il a pas terminé les Tours de France. Il bâchait dès que la montagne arrivait. Mais c'est vrai qu'il avait des tenues incroyables. C'est le premier à avoir mis maillot vert et short vert. Jaune, il a été maillot jaune du Tour de France également. Il avait une tenue zébrée, la tenue de son équipe. C'est vrai que c'était un garçon un garçon fantasque, il faut bien le dire.
Mais il terminait pas les tours.
Ouais, enfin, il y a d'autres aujourd'hui. Hein, on leur tape pas sur les doigts, pour autant.
C'est vrai, dans les grands sprinteurs, il y a eu pendant des années aussi Robbie McEwen qui a gagné une douzaine d'étapes sur le Tour de France et qui était aussi un garçon brillant. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver un autre nom que Marc.
Il y a eu Zabel, mais enfin, Zabel, il a jamais fait fantasmer les foules, non plus.
Mais c'est ça, après, ce qui fait aussi un coureur cycliste, encore plus un sprinter, c'est le charisme.
Bien sûr.
Finalement, Mark Cavendish, Prudhomme le disait, il dégage des émotions, il dégage quelque chose. C'est un peu une rockstar. Mario Cipollini était dans le même genre. On a eu la rétropoussette de Pierre Amiche pour Oscar Fréré. C'était un super sprinter, mais il n'a pas marqué beaucoup de monde, finalement. Et c'est ça qui fait aussi pourquoi. Et les autres coureurs, c'est pareil. Julien Alaphilippe, Van Der Poel, Van Aert, c'est aussi parce qu'ils dégagent des émotions, qu'on les aime tant. Et Mark Cavendish, il a tout réuni.
Alors, Mark Cavendish, qui a 36 ans, on pensait qu'il allait arrêter sa carrière la saison dernière, on en parlera tout à l'heure avec Patrick Lefebvre. Vu son état de forme actuel, est-ce qu'il en a encore quelques-unes dans les jambes, Cyril, la 35e par exemple, est-ce qu'elle est pour cette année? Est-ce qu'il reviendra l'année prochaine et sera en mesure de remporter le Tour? Il va falloir que tu lises dans ta boule de cristal, mon cher druide.
Alors, il a effectivement la possibilité de gagner encore, on va dire, 2 étapes sur ce Tour, qui le ferait d'ailleurs égaler son record de victoire sur un même Tour de France. Le seul problème, c'est qu'il arrive dans les délais. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas gagné. On l'a vu à l'arrivée aujourd'hui. D'ailleurs, il a insisté à plusieurs reprises sur son état de fatigue ce soir, même s'il l'avait emporté. Vous savez, les sprinters, même cuits, sont capables d'aller gagner des étapes, même dans des sprints massifs, parce que c'est la qualité intrinsèque du sprinter. C'est son adrénaline, c'est son explosivité. Et comme il est le meilleur sprinter du Tour de France, ou j'ai presque envie de dire
le
peut-être,
seul,
peut-être ouais. le meilleur sprinter de l'histoire du cyclisme, eh bien, même cuit, il peut aller gagner. C'est ça qui fait aussi la différence.
Mais n'oublions pas qu'il était hors délai lors de sa dernière participation au Tour de France en 2018. Donc, c'était il y a 3 ans déjà. Mm. Est-ce que les Pyrénées ne vont pas être de trop, quand même?
Eh bien, la question, il faut que nous la posions.
Tu nous donneras la réponse dans, verra,
48, dans 48 heures. Ouais. Ou non, dans une semaine, quand les Pyrénées sont franchies.
Mais il n'y a aucun problème. Moi, je crains qu'il ne passe pas.
Tu crains qu'il
On verra, mais ce soir à Carcassonne, c'est difficile de dire qu'il n'en a pas une autre dans les jambes quand il vient d'en gagner 4 quand même. 36 ans, c'est un chiffre, c'est comme 34 victoires, c'est un chiffre. Et il a gagné 4 victoires, c'est le meilleur sprinter du Tour. Heureusement qu'il en a encore une dans les jambes, sinon qu'est-ce qu'on va dire des autres sprinters quand on va gagner ?
Ouais, mais il faut qu'il passe.
Il faut qu'il passe, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il en a une dans les jambes, peut-être une ou deux cette année, et puis peut-être l'année prochaine s'il revient.
Alors, il faut qu'il passe, et il faut qu'il surpasse et dépasse son état de fatigue, tu le disais, Cyril. Il semble quand même un peu touché au patte arrière, notre ami Mark Cavendish. On va l'écouter, tiens, justement, tout à l'heure en zone d'interview. Il avait vraiment le visage marqué et il a dit, en interview.
So dead. 220 kilometers in that heat.
Je suis tellement mort. Il faisait très chaud dans les derniers kilomètres. C'était incroyable avec le vent en plus. Je suis tellement mort. Les garçons ont été incroyables. Je n'arrive pas à y croire. J'étais à la limite à la fin de l'étape. En plus, ça montait un peu sur la fin. J'ai vu que d'autres coureurs ont essayé de me déborder, mais j'ai juste suivi Morkov. Je réalise, mais c'est juste une victoire de plus sur le Tour de France. Ce n'est pas ma première. C'était mon rêve d'en remporter quand j'étais enfant. J'ai travaillé dur pour y arriver. Je sais que ça va beaucoup faire parler, surtout en Grande-Bretagne. J'espère que je vais pouvoir à mon tour inspirer certains enfants, qu'ils aient envie aussi de venir disputer le Tour de France. C'est ce qui est le plus important pour moi, finalement.
That's what means the most to me, I think. Voilà, l'héritage, il veut laisser quelque chose derrière lui. Mark Cavendish, qui a bien changé en plus, il est devenu un garçon fort sympathique alors qu'on le détestait. On aimait le détester dans ses jeunes années de sprinter sur le Tour.
Tu disais peut-être qu'il reviendra aussi l'année prochaine. Je pense que ça sera quand même compliqué parce qu'on le voit mal briller dans une autre équipe. Il y a eu des expériences en dehors de la Deceuninck Quick-Step. Et chez Deceuninck, il y a un sprinter qui est amené à le remplacer. Ça ne sera pas Sam Bennett, puisqu'il a pris sa place, mais c'est Fabio Jakobsen. Donc logiquement, Jakobsen sera le leader l'année prochaine.
Il faut voir comment il aura récupéré de sa chute, hein, Fabio Jakobsen. Il a re-signé 2 ans là. Ouais. Et peut-être qu'ils vont encore se servir justement de Cavendish une année pour faire encore la transition avec Fabio Jakobsen. On verra ça. Mais de toute façon, s'il revient au Tour l'année prochaine, ça sera dans l'équipe de Canin Quickstep.
On a du mal à imaginer Patrick Lefeuvert lui dire « Bon, mais mon petit gars, c'est bon, t'en as gagné 4 ou 5 et l'année prochaine, tu restes à la maison. » Franchement,
on a du mal à l'imaginer aussi l'augmenter, parce qu'il ne voulait pas le payer déjà. Là.
Oui, tiens, alors, justement.
Attention, il y a quelque chose qu'il va falloir moduler un tout petit peu. C'était un bad boy, un mauvais garçon que personne n'aimait, mais il faisait ce qu'il fallait pour. Aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour être aimé. Il faut quand même bien le dire. Mais ce que je crains, moi, l'année prochaine, c'est qu'il est revenu là, au dernier moment, avec une surmotivation et qui fait qu'il est à ce niveau de performance sur le Tour. Une fois que les flonflons d'après Tour vont être tombés, est-ce qu'il va garder pour un nouveau Tour la même motivation? Si jamais il baisse d'un cran la motivation, il baissera aussi de 5 km/h en vitesse de pointe dans l'esprit, puis il aura peut-être ce qu'il n'a pas cette année parce qu'il l'a retrouvé, il n'aura peut-être pas l'envie d'aller frotter comme il le fait actuellement.
Ou alors il dira à Patrick Lefeuvert, c'est bon, je prends ma retraite.
Ouais, au sommet,
peut-être.
Ce serait magnifique. Mark Cavendish, dont on rappelle qu'il a presque demandé l'aumône à Patrick Lefeuvert, c'était l'an dernier, en fin de saison, le tout-puissant patron de la Deceuninck, qui explique la genèse du retour du Cav dans son équipe.
J'ai vécu 3 années avec lui, qui était super. Il y avait un contact spécial. Je ne peux pas m'exprimer de préférence pour l'une ou l'autre. Mais il y avait quand même quelque chose. Quand il est parti chez nous, j'allais à Londres, il m'avait toujours au restaurant. Il a toujours dit, je veux retourner. Il a dit, mais j'ai pas d'argent. Et puis, il y a 9 mois passés, il est à Gavivgam en pleurant. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que j'ai pas de cœur. Mais là, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je dis, je dois faire quelque chose. Je l'ai appelé, il est venu à mon bureau, je dis, Marc, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais le faire, donne-moi 3 semaines et s'il vous plaît, ne me téléphone pas. C'est moi qui vais téléphoner à vous. Et j'ai cherché une solution et voilà, on est là. Heureusement qu'il y a des belles histoires, ça me fait continuer dans ce métier-là.
Une magnifique histoire de cyclisme, histoire d'amitié, de confiance réciproque, et donc voilà.
Et voilà les résultats.
Le feu vert a du cœur, Cyril, toi qui pouvais en douter.
Comment ça? Mais... oh, il est trop, Christophe.
Mais oui, parce qu'il parle de toi, il fait référence à toi quand il dit ça, Patrick.
Oui, bien sûr. Non, mais j'ai compris.
Tu t'es un peu son modèle,
tout
quand
monde,
même.
Tout le monde va comprendre.
Tu croyais que ça allait
passer
comme ça.
Je suis un gros salaud, c'est ça.
Pas du tout, pas du tout. Alors, Cavendish trace évidemment tous les succès d'étape sur ce Tour de France. On rappelle que Caleb Ewan, malheureusement, a dû abandonner en tout début de Tour de France. Depuis qu'il est parti, on a l'impression quand même que le plateau des sprinteurs, mis à part Cavendish, il n'est pas vraiment au niveau des années précédentes sur le Tour de France. Est-ce que le plateau est à la hauteur du talent de Cavendish ?
Ah, aujourd'hui, non. Au départ du Tour, oui, il y avait quand même un garçon qui va actuellement plus vite que lui, c'est Caleb Ewan. Bon, lui, malheureusement, il est allé au tapis avec Peter Sagan. D'ailleurs, tous les deux, rappelez-vous cette chute dans une arrivée où il y avait un virage. Et puis, on a perdu aussi Tim Merlier. On a perdu Coquart, on a perdu Démare. Donc ça fait quand même 4 gros sprinters qui sont sortis du Tour de France et qui permettent aujourd'hui à Cavendish d'aller gagner des sprints peut-être un peu plus facilement, même s'il est cuit. Mais ça a toujours été vrai dans tous les tours. Il y a toujours eu des sprinters qui ont été obligés d'abandonner.
Ouais. Il y a toujours eu un dominant dans un Tour de France, alors qu'on peut penser que le plateau est à peu près d'égale valeur. Mais voilà, quand Cavendish est là, il remporte 6, 5, 4 étapes. C'était la même chose pour d'autres grands sprinteurs comme Ewan.
Kittel
aussi à son époque.
Il y a une année où c'était très, très séparé.
Partagé.
Il y a 2-3 ans, oui.
C'est ça. Mais les sprinters, il n'y a peut-être aucun coureur dans le peloton qui a plus besoin de confiance qu'un sprinter. Il doit avoir confiance dans ses capacités à lui, confiance dans son train, confiance dans son meneur, son dernier homme qui va le lancer, confiant pour aller frotter. Si vous n'avez pas ces 4 éléments et la confiance au top dans ces 4 éléments, c'est compliqué d'aller gagner un sprint. Mark Cavendish, comme les autres sprinteurs, une fois que vous avez gagné un sprint, bah souvent vous en enchaînez derrière parce que tout s'enchaîne comme il faut, tout s'articule bien et ça passe. Et si vous avez à l'inverse, on peut prendre Arnaud Démare par exemple, les premiers sprints, ça ne s'est pas forcément bien passé, bah après la machine n'est pas complètement sur des rails et ça devient un peu plus compliqué. Eux, ils fonctionnent à fond à la confiance, à fond, à fond, à fond. Et une fois qu'il y en a une qui est passé au fond, après, souvent, ça s'enchaîne.
Démare et Coquart partis, on pouvait miser sur Nasser Bouhanni. Malheureusement, aujourd'hui, c'était plus compliqué pour Nasser qui prend la 11e place, je crois. Hein.
Oui, mais qui est dans cette fameuse chute à la suite de Tim de Klerk, là où beaucoup de coureurs sont partis dans le ravin et il a été ralenti. Nasser Bouhanni, il a été obligé de revenir dans le peloton. Il a fait beaucoup d'efforts et on le voit, il ne fait pas vraiment le sprint aujourd'hui. Il n'a pas de chance quand même depuis le début de ce Tour de France.
Oui, alors il faut ajouter. On a eu l'occasion de parler d'ailleurs avec Jérôme. Vous savez qu'il a été suspendu 2 mois. Et là, de façon un petit peu arbitraire.
Sévère.
Plus que sévère. Aujourd'hui, il sait que s'il fait la moindre faute, il va peut-être se prendre 6 mois. Donc il y a un moment, c'est lui qui freine. Et or, malgré ça, il va quand même faire 3 podiums.
Ça, c'est important parce qu'à Hambourg, il a été déclassé pour une faute qui était aussi loin d'être évidente. Ça fait quand même plusieurs fois que Nasser Bouhanni il se fait taper sur les doigts alors que des fois d'autres sprinteurs font des trucs pas forcément mieux et ça passe. Et là, quand vous êtes sur un sprint face à un Mark Cavendish ou un Tim Merlier ou n'importe lequel, il a peur forcément. Il n'a pas peur d'aller frotter, mais il a peur que ça soit mal interprété, de la sanction. Et ça, c'est compliqué quand vous êtes un sprinteur.
Nasser Bouhanni donc battu tout comme les autres Français. Deux d'entre eux ont tout de même tenté aujourd'hui la Tour en début d'étape. Puis Quentin Paché en fin d'étape, il décroche le prix de la combativité. Mais il n'y avait aucune chance de l'emporter pour l'un ou pour l'autre. Les Français qui ont du mal à faire parler de cette année. Alors que faut-il en attendre dans les Pyrénées qui débutent demain ? Eh bien c'est le thème de notre partie de Manivelle.
RMC,
la partie de Manivelle.
Alors, il n'y a quasiment aucun Français classé, au général. Des sprinteurs qui ne sont pas vraiment au niveau, qui sont déjà partis. Des baroudeurs aux abonnés absents. Et dans la montagne, vont-ils se mettre en évidence? Sur qui comptez-vous, messieurs, dans les Pyrénées, côté français? Est-ce que vous comptez sur certains d'entre eux? Est-ce qu'il y en a qui peuvent aller chercher une victoire d'étape, aller chercher peut-être un maillot à poids? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos Français dans la semaine qui vient?
Bien, d'abord qu'il se lâche complètement, totalement. Alors, on ne parle pas, bien sûr, de Julien Alaphilippe.
Oui, mais... lui, il se lâche tous les jours. Il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Oui, peut-être un peu trop, d'ailleurs. Mais on a pu voir aujourd'hui, dans le final de cette étape, de David Godu, qui est revenu aux affaires, qui est venu se mêler en tête de peloton dans les bordures que nous avons pu voir sur la fin d'étape. On a Valentin Madouas, qui on n'a pas encore vu, mais qui était surtout au service de David Godu. Et puis on a Bonamour, qu'on a déjà vu dans la première partie de ce Tour de France. Turgis, moi j'aimerais bien qu'il bouge un petit peu, parce qu'on l'a pas vu, lui qui a été aussi brillant sur les
classiques.
Sur les classiques. Et puis on a toujours Guillaume Martin, Anthony Pérez, qui était très bien dans les Alpes. Puis on a, sur un plan collectif, l'équipe AG2R quand même. Mais le seul problème, c'est qu'eux... ils ont un coureur qui est dans le top 5. Ce qui veut dire que ça maîtrise un petit peu. Et puis, on a vu, sur le Ventoux, Kenny Ellison, Julien Bernard. Voilà, à mon avis, ceux qui peuvent aller faire des numéros et peut-être aller chercher une gagne.
Voilà, tu les as
cités. Là où il n'a pas pu donner de nom, comme Aurélien Paré-Peintre, il a donné toute l'équipe à G2R. Logiquement.
Non, mais je travaille et je prépare de temps en temps.
Il ne veut blesser personne. Donc non,
il a raison. On peut peut-être. Moi, j'attends un peu. J'attends de voir comment il récupère un peu. Mais Warren Barguil, j'aimerais bien le revoir à l'avant quand même.
J'y crois,
parce qu'il a l'air aussi un peu à l'image de David Godu de retrouver un petit peu des sensations. Donc j'aimerais bien le voir, il y a quand même beaucoup d'étapes qui lui conviennent maintenant parce qu'il va assez vite au sprint.
Il a Quintana à supporter.
Non, mais pourquoi ?
Pour le classement de la montagne.
Mais non, il va pas supporter ça. Il va essayer d'aller chercher une victoire d'étape, je pense. Après, il faut que ses jambes suivent. Mais j'aimerais bien le revoir à l'avant. Ouais.
Et puis, il y a évidemment notre Julien national, Julien Alaphilippe, un petit peu moins présent aujourd'hui. Hein. Il a sans doute écouté nos conseils. Il est resté abrité, même si en fin d'étape, il est allé rouler derrière Paché.
Il a payé de sa personne en fin d'étape.
Oui, mais il s'est mis en retrait. Hein,
mais il l'a dit à la fin. Je pensais pas finir aussi fatigué aujourd'hui et autant donner dans l'étape. Donc,
Alors, s'est-il réservé ou va-t-il encore garder un peu de gaz pour le week-end qui arrive? Sa réponse.
C'est de belles étapes, là, demain, après-demain. Après, ouais. Je pensais pas me faire si mal aujourd'hui, donc c'est plus qu'un tour réussi pour nous jusqu'à maintenant. Et maintenant, ça sera du bonus.
Pour nous, c'est bien. Pour lui, c'est pas mal aussi. Mais ça pourrait être encore mieux, évidemment, s'il remporte une étape, notamment dimanche, Cyril, celle qui lui convient peut-être le mieux, avec l'arrivée en plus en Andorre, chez lui, dans sa résidence.
Oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il est parti dans une forme de démarche qui n'a plus rien à voir avec la logique que l'on peut, les uns et les autres, imaginer pour les scénarios que l'on peut imaginer pour lui. Aujourd'hui, on pense qu'il va être au repos et puis à 30 km de l'arrivée, il se met à la barre après la chute dans un premier temps pour ralentir le peloton. Et puis après, quand le vent est arrivé, à un moment, il a pris un relais qui devait faire 7 ou 8 bornes. C'est-à-dire que là, il n'est plus...
Il n'est plus dans
l'étape de demain. Si ça va, ça va. Et puis il sait qu'aujourd'hui, c'est une star. Et quand une star est dans le Tour de France... quoi qu'elle puisse faire, de toute façon, tout le monde dira bravo.
L'étape de demain peut-elle débloquer la situation pour le classement général? Jérôme, parle-nous un peu de cette 14e étape.
14e étape, 184 km. On arrive vers les Pyrénées. Il y a pas mal de montées. Alors, tous les coureurs et les directeurs sportifs se méfient vraiment de la dernière montée. Hein. Col de Saint-Louis, là, 4,7 km à 7,4%. Ensuite, il y aura 19 km finalement pour aller à l'arrivée. Donc là, ça peut peut-être bouger dans cette côte-là. Mais il faut, si on regarde le profil en entier, quasiment les 90 premiers kilomètres sont sur un profil plutôt montant, à part les 5 kilomètres de descente après le premier col, le col du Bac. Sinon, c'est quand même un profil montant. Et on a entendu dans les interviews d'après cette étape que tout le monde veut être dans l'échappée. Il va y avoir encore une grosse bagarre. L'étape est longue, il va encore faire chaud. Ça va vraiment être une étape intéressante et on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises. Pour le général, je ne sais pas si ça va tenter dès demain ou attendre dimanche. Peut-être, mais en tout cas, on va avoir une belle course, une belle course de mouvement.
Et on annonce la chaleur hein, dans les Pyrénées. Il
fait enfin
toujours... enfin la chaleur. Bah oui, c'est sûr que c'était pas en Bretagne ni dans Haute-Savoie qu'on a eu ça. 35 degrés annoncés pour ce week-end. Messieurs, il est l'heure maintenant de notre rétro-poussette, comme tous les soirs. Pierre Amiche s'intéresse aujourd'hui à un coureur qui lui aussi avait remporté 4 étapes de manière presque inattendue. C'était sur le Tour 1956. Son nom, Roger Hassenforder. Hassen, le magnifique, sale gosse du peloton, à la vie complètement folle.
C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde de cyclisme.
RMC.
André Darrigade est le plus rapide au sprint.
La rétro-poussette.
Turbulent et attachant, prodigieux et exaspérant, Roger Hassenforder aurait mérité 15 histoires à lui seul. Alors tentons de résumer la vie de Hassen le magnifique, le sale gosse du peloton. Turbulent et ingérable, il l'a toujours été. Alsacien de naissance et de cœur, son enfance est partagée entre bêtises et provocations. Exemple en 1944, où il se tire dans la main en jouant à la roulette russe avec des copains. Un mois de convalescence. Puis de retour à Sossheim, il fait sauter des explosifs qu'il a trouvés dans un baril. Il est soufflé par l'explosion et en reprend pour 6 mois de soins. Et l'école ? Buissonnière. Il dira « Quand je suis sorti de l'école en 47-48, je ne savais pas écrire. Je ne recevais que des punitions et des claques. » Quant au vélo, comme souvent, c'est par hasard qu'il grimpe dessus. La légende raconte qu'il devait payer une dette de jeu et qu'il s'est mis à rouler pour l'argent. Mais lui raconte, dans une entrevue donnée à la presse locale, sa version. Il dit « Un jour, j'ai assisté à une course amateur à Mulhouse et je me suis moqué de leur niveau. L'un d'eux m'a dit « Vas-y toi, avec ta grande gueule, montre-nous ce que tu sais faire. » Alors j'étais en pantalon et chaussures du dimanche. Je suis monté sur le vélo et j'ai foncé autour de la place du 14 juillet. Ils n'y croyaient pas. Quand ils ont vu le chronomètre, j'avais fait le meilleur temps. Brillant rouleur, sprinteur téméraire, il gagne chez les amateurs et évidemment chez les professionnels. En 1953, et sur le Tour de France, cette fois il ne gagne pas. Mais il fait mieux que ça. Il piège le Suisse Fritz Schaar et sur une blague qui tourne à l'exploit, il s'empare du maillot jaune, le garde.
Hassenforder conserve toujours le maillot jaune. Bravo Hassenforder.
Le perd, puis abandonne. La montagne est trop dure. Idem en 54, où il bâche, cette fois sans victoire. Mais en 1955, Hassen va se faire un nom. Et à domicile, s'il vous plaît.
Cinquième étape, Metz-Colmar. Peu après Nancy, Hassenforder et Jean Bobet se sont échappés du peloton avec deux autres coureurs, dont Viteta, qui passe premier au col de la Charbonnière. Les échappés ont reçu du renfort. Et sur la piste, à Colmar, Hassenforder triomphe aisément et reçoit la récompense de tous les vainqueurs.
À Colmar, il y gagnera deux fois. Et il explique, quasiment à l'aube de ses 90 ans, pourquoi il voulait tant triompher à la maison.
Mais à l'arrivée, il y avait chaque fois une de mes fiancées et je voulais être le premier. Et j'ai forcé. Au départ, Jean-Paul Olivier m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses faire aujourd'hui à Colmar ?» Alors j'ai dit « Aujourd'hui à Colmar, personne ne peut me battre. »
Roi des boîtes de nuit, prince de la fête, fiancé 11 fois, Roger est surtout un énorme vantard. Quand son directeur sportif, le rotor et rigoureux Antonin Magne, lui fait un reproche, il le menace même de lui foutre sa pompe à vélo dans la gueule. Et quand on lui parle de dopage, eh bien là encore, il assume.
Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même carrière ?
Du vélo ?
Ah oui. Non.
Non ?
Non. Certainement pas, parce que maintenant les courses vont tellement vite. Hein.
Pourquoi les courses vont-elles plus vite ?
Écoutez, je ne sais pas, beaucoup de coureurs se soignent, ils se soignent. Un coureur, pour moi, chaque coureur, c'est presque un docteur maintenant.
Oui.
Je connais des coureurs, ils ont leurs appareils, les valises pleines d'appareils de
qu'est-ce pour que vous
prendre
appelez,
la tension, pour prendre la tension et tout. Ils n'ont pas besoin de consulter un docteur.
Ils ont des seringues aussi, dit-on.
Ah, ça se peut, oui. Enfin, pour courir à 45 à l'heure, on ne peut pas courir à l'eau minérale.
Ah, pourtant dans les journaux, on a l'impression que tout le monde marche à l'eau minérale.
Enfin, moi je connais des coureurs, enfin, j'en ai jamais vu un courir à l'eau minérale à part Bobet.
Mais comme toujours, on ne respecte pas les
règles. Si on court à l'eau minérale, on roule à 35 à l'heure. Et ça va pas.
Et pourtant, son talent et sa popularité excusent presque tout. Illustration sur le Tour 56. Pas sur la liste de départ, oublié par l'équipe de France et boudé par l'équipe de l'Est, il arrive au départ en smoking froissé pour saluer les coureurs. Le coquin sort tout juste de boîte de nuit. Si tu étais plus sérieux, je t'aurais pris car j'ai un gars forfait, lui lance Léon Le Calvez, le patron de l'équipe de l'Ouest. Banco, répond Hassen. Je pars, mais je te promets d'arriver. Et sur le Tour, il gagne 4 fois, dont l'avant-dernière étape entre Lyon et Montluçon, après 187 km d'échappée.
Effectivement, peloton regroupé maintenant après une quarantaine de kilomètres de course, et c'est le moment qu'a choisi un homme pour s'enfuir. un homme qui vient de rejoindre, qui a pratiquement doublé le peloton dans sa foulée et qui s'en va seul à 190 km de l'arrivée. Et cet homme, c'est Asenforder. Asenforder qui a pris le large sur un de ses coups de tête qui caractérise le personnage. Une offensive que le peloton ne prend d'autant pas au sérieux que Asenforder est à 2 heures de Valkoviak. Des roses pour Valkoviak, mais aussi pour Asenforder. Premier donc, sans discussion possible, Roger Asenforder qui remporte cette étape au Lyon-Montluçon, la 4e à son actif.
Voyez-vous, je ne regrette qu'une chose, que le tour est déjà terminé, parce que j'ai 1 heure de retard, mais je suis sûr que je le rattraperai dans 5-6 étapes.
Oui, mais demain, par exemple.
Non, demain. Je très bien qu'il y a 5-6 étapes
oui,
de plat.
Enfin, merci les gars, vous avez fait du beau travail.
Asen est si populaire qu'il est payé autant que Louison Bobet sur les critériums. La différence entre les deux, c'est que l'Alsacien dépense tout l'argent le soir même. En 1957, cette fois, et malgré sa popularité, il frôle l'exclusion sur le Tour de France. Sur l'étape entre Cannes et Marseille, il réussit le tour de force d'entraîner une large partie du peloton dans la Méditerranée. Une folie, fruit d'un pari avec la presse. Il raconte. Ce jour-là, j'avais 9 minutes d'avance et le rédacteur en chef, Raymond Cartier, me proposa la une contre un bain de mer. Quand je suis sorti de l'eau, tout sentait le sale, y compris les bananes. D'autres coureurs m'ont suivi et le soir, j'ai failli être exclu. Son dernier succès sur le Tour de France se fera dans la magnifique ville de La Rochelle. Capable des plus grands exploits, des plus grandes provocations et des excès les plus inconcevables, Asen le Magnifique nourrira tout de même des regrets. À 89 ans, il dira « Ma vie est un roman, mais j'ai loupé ma carrière. J'aurais dû faire beaucoup mieux. »
Non, rien de rien.
Roger Asenforder, Roger le fou, incroyable histoire que celle de Roger. Je te voyais vraiment sourire en écoutant les paroles de Pierre. C'est vrai que c'est un garçon hors du commun.
Alors, hors du commun, et sa dernière phrase résume peut-être ce qu'il a vécu après sa carrière. C'est que pour moi, c'était l'un des plus grands talents que la France ait connu. Malheureusement, il y avait quelques petites failles dans sa trajectoire. C'est qu'il était hors norme pour tout.
Ouais. 11 fois fiancé, plus que toi. Hein.
Oui, plus que moi. Oui. Et là, j'ai un regret, peut-être, je ne sais pas. Mais... c'est un coureur qui s'entraînait quand il en avait envie et qui faisait tout et n'importe quoi, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Exactement, on en reparlera demain dans l'intégrale puisqu'on aura 4 heures et tu nous raconteras les facéties de Roger Asenforder. Tu n'as pas couru avec lui, hein. Il est de la génération avant toi. Il est
non, je l'ai connu après.
Décédé au début de cette année 2021. Grand bonhomme et énorme personnalité. Voilà donc pour Asenforder, voilà donc pour cette 13e étape du Tour de France. On se retrouve demain évidemment pour le direct à partir de 14h pour cette entrée dans les Pyrénées, ce petit hors-d'œuvre des Pyrénées avant de plus grosses échéances qui nous attendent à partir de dimanche. Bonne soirée, à demain 14h et Grand Plateau évidemment dans la foulée. Ciao ciao.
RMC Grand Plateau.